Samedi, non. Mardi, jeudi. Jeudi, 7 novembre 2024. Donc, deuxième séance sur la question de la liberté. Voilà. Alors, lors de notre précédente séance, nous avons examiné les différentes significations du terme de liberté. Et vous vous souvenez, cet examen nous a conduit du sens politique et juridique, qui est le premier sens à avoir émergé, jusqu'à son sens métaphysique, où la liberté désigne la liberté de la volonté. Et le premier grand problème, si vous voulez, celui qu'on examine, c'est celui de savoir s'il y a ou non une liberté de la volonté humaine. Si c'est une réalité ou si c'est une illusion. Alors on avait un petit peu commencé, mais on va reprendre à fond la question. Donc la liberté se rapporte ici à ce qu'on appelle le libre arbitre, qui, selon la formule de Descartes, consiste en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas. Le libre-arbitre se révèle ainsi en nous comme une puissance des contraires. Une puissance des contraires, ça signifie qu'elle se révèle à nous comme le pouvoir de choisir entre des possibilités concurrentes ou opposées. Donc tout le problème est de savoir si ce libre arbitre existe. Alors pour Descartes, qui est par excellence le philosophe du libre arbitre, son existence est indubitable. Puisque, là encore, c'est un rappel, je cite Descartes dans le fameux article 39 de la première partie des Principes de la philosophie. Voilà ce qu'il écrivait en titre. « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » Et en effet, selon lui en tout cas, la liberté de la volonté s'éprouve comme un pouvoir absolu en ce qu'il ne dépend que de nous de faire un choix, de choisir ceci ou cela, d'agir dans un sens ou dans un autre, ou même plus radicalement, d'agir ou de ne rien faire, ou encore, tout simplement aussi, de suspendre notre choix. Donc, vous voyez que, selon l'idée de libre arbitre, la volonté s'éprouve non seulement comme un pouvoir souverain placé au-dessus de tout choix, mais également comme un pouvoir créateur, puisque la volonté apparaît ici comme le pouvoir de créer elle-même la cause de ses actions, d'engendrer des actions qui ne dépendent d'aucune cause ni d'aucune condition extérieure. Alors, à l'inverse, à l'opposé, les philosophes qu'on va appeler déterministes, eh bien, pour ces philosophes, la liberté de la volonté est une pure illusion. Une pure illusion qui repose sur l'ignorance dans laquelle nous sommes des causes qui nous déterminent à agir. Donc vous avez un conflit entre deux types de doctrines. D'un côté, vous avez les partisans du libre-arbitre, comme Descartes, et puis de l'autre côté, ceux d'un déterminisme universel, pourquoi ? Parce que, au fond, selon eux, il n'y a pas d'exception. Tout s'explique par des causes nécessaires. Alors on aurait tort de penser qu'il s'agit là d'un simple conflit d'opinion qui relèverait du tempérament ou des préférences arbitraires des uns et des autres. Parce que comme on va avoir l'occasion de le voir, mais ce soir on ne pourra pas le dire, j'indique simplement l'idée, comme on aura l'occasion de le voir avec le grand philosophe Kant, philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, qui écrit un grand texte qui s'appelle « La critique de la raison pure » en 1781, comme va le montrer, il s'agit là d'un conflit beaucoup plus profond qu'un simple conflit d'opinion. Il s'agit d'un conflit interne à la raison. J'explique. La raison, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est notre pouvoir de penser. Eh bien, la raison entre en effet en conflit avec elle-même lorsqu'elle s'affranchit des limites de l'expérience, lorsqu'elle prétend connaître des objets qui ne sont pas donnés par l'expérience, comme par exemple la liberté, le monde, Dieu. Au fond, elle aborde là des choses, des objets qui ne nous sont pas donnés dans et par l'expérience. Et ce que montre Kant, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible au-delà des limites de l'expérience. Ainsi, on ne sera pas étonné de comprendre qu'il est tout aussi impossible de démontrer qu'il existe un libre arbitre que de démontrer qu'il y a dans le monde une nécessité universelle, c'est-à-dire une nécessité qui ne souffre aucune exception. On ne peut démontrer ni la première thèse, la thèse du libre arbitre, ni sa thèse opposée, à savoir celle d'un déterminisme universel. Alors, le progrès des sciences, surtout à partir du XVIIe siècle, surtout avec la naissance de la physique moderne, les progrès des sciences, nous incitent à penser que tout ce qui se produit dans le monde advient suivant des causes nécessaires. Mais si tout ce qui se produit dans le monde se produit selon une nécessité infaillible, à ce moment-là, la liberté de la volonté ne peut être qu'une illusion. Affirmer, en effet, l'existence du libre arbitre, c'est, évidemment, de ce point de vue, affirmer quelque chose d'absurde. C'est poser l'existence d'actions qui n'auraient d'autre cause que notre volonté et seraient donc en rupture avec l'enchaînement nécessaire des causes et des effets qui est à l'œuvre dans le monde. Mais, de l'autre côté, rien ne nous autorise à conclure que la réalité tout entière se réduit à ce que les sciences nous en font connaître dans les limites de l'expérience. Et là, on ne peut pas confondre, si vous voulez, le physicien qui étudie les lois de la nature avec un métaphysicien. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Le physicien explique des phénomènes en les rapportant à des conditions, en les rapportant à leurs causes. Mais ici, la connaissance est toujours limitée au champ de l'expérience. Le physicien ne se livre pas à la spéculation. Le métaphysicien, lui, prétend s'élever à la connaissance de la totalité du monde. Il prétend s'élever au-delà de l'expérience pour appréhender la totalité de l'univers, uniquement par la raison. Et il rapporte la totalité de l'univers à une cause première qui est appelée par les métaphysiciens Dieu, mais Dieu, pas le Dieu de la religion, hein, le Dieu comme première cause. Et comme, encore une fois, le montrera Kant, nous n'avons de connaissance que dans les limites de l'expérience, et effectivement, à chaque fois qu'on prétend s'élever à l'absolu, à chaque fois que la raison prétend s'élever à l'absolu, eh bien, évidemment, elle n'établit pas une connaissance. Alors que nous ne puissions nous empêcher de penser à l'absolu, hein, c'est une chose, mais cela veut pas dire que nous parvenons à une connaissance. Donc vous voyez que la thèse du libre arbitre et celle du déterminisme universel, qui est son opposé, ce sont deux thèses contradictoires que l'on ne peut démontrer ni l'une ni l'autre. Alors on serait tenté de dire qu'après tout, il ne s'agit là que d'une querelle de métaphysiciens. On serait tenté de s'en désintéresser. On va les laisser discuter. Mais la question n'est pas une pure question théorique. C'est une question que nous ne cessons de nous poser dans la vie pratique. Ainsi, par exemple, on peut observer que, même si nous sommes convaincus, en théorie, qu'il n'y a pas de libre arbitre, que la conduite des hommes est déterminée, bah, nous prêtons aux personnes qui nous entourent un libre arbitre. Quand je m'adresse à eux, je les appréhende comme des personnes dotées d'un libre arbitre. Je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ces personnes décident par elles-mêmes de leurs actions. Même si c'est une illusion. Et quand nous leur en voulons d'ailleurs, quand vous en voulez à quelqu'un, quand vous lui reprochez les actions qu'il a commises à votre encontre, eh bien, vous croyez que cette personne avait le choix, qu'elle pouvait faire autrement, qu'elle pouvait agir autrement qu'elle n'a fait. Et c'est bien pour ça que vous lui reprochez d'avoir agi comme ça. Et si on continue les observations, quand vous réfléchissez aux conflits qui existent dans un couple, par exemple, elles sont souvent l'expression d'une controverse métaphysique. Je m'explique. D'un côté, l'un reproche à l'autre d'avoir mal agi à ses dépens, et vice-versa. Et puis de l'autre, il déclare par dépit, je te connais, tu ne changeras jamais. Tu ne peux pas faire autrement que tu ne fais. De toute façon. Alors, vous voyez, les personnes oscillent entre les deux points de vue. Alors tantôt, hein, on reproche à quelqu'un d'avoir agi comme il a agi, hein. C'est-à-dire qu'on lui prête un libre arbitre. Et puis de l'autre côté, par dépit, on dit, de toute façon, est-ce qu'il peut faire autrement? Est-ce qu'il est capable de faire autre chose? Bon. Donc vous voyez que, alternativement, on évoque le libre arbitre ou alors on conclut à l'implacable nécessité d'un caractère. Donc vous voyez que nous ne cessons d'osciller d'une thèse à l'autre. Et c'est encore le cas, je vous donne encore un autre exemple, c'est encore le cas quand nous avons à juger de la conduite délictueuse d'un homme. Tantôt nous nous érigeons en procureur, nous soulignons sa responsabilité, nous jugeons qu'il mérite châtiment, tantôt nous nous faisons son avocat, surtout si c'est un proche, surtout si c'est quelqu'un qui appartient au même monde que le nôtre. Et à ce moment-là, nous lui cherchons des circonstances atténuantes, nous cherchons à expliquer ce qui, dans son enfance, dans ses conditions de vie, a pu le mener à cette conduite malheureuse. On ne dit même pas conduite délictueuse, on dit une conduite malheureuse. Bon. Donc vous voyez que, là encore, vous alternez d'un point de vue à l'autre. Alors, aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière le conflit entre les deux thèses, donc libre arbitre, déterminisme universel, nous allons voir comment ce conflit oppose les philosophes Et je prendrai ici deux grands philosophes, Descartes et Leibniz. Descartes, 17e siècle. Hein. 1641, il écrit ses méditations métaphysiques. Et Leibniz, lui, il écrit un peu plus tard, début du 18e, plusieurs textes. Alors, c'est le premier grand philosophe allemand, premier à écrire en allemand, mais il écrit aussi en latin et en français. Et donc, ils se sont opposés sur le sujet de la liberté de la volonté. Plus exactement, Leibniz critique Descartes sur cette question, puisque Descartes ne rencontrera jamais Leibniz, hein, plus tardif. Donc c'est ce que nous verrons dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, nous verrons comment cette opposition se retrouve à propos de la question de l'homme, cette fois-ci, de la place qu'il occupe dans la nature. Alors là, vous avez aussi une alternative. Est-ce que l'homme est un être exceptionnel qui déroge aux lois de la nature? Ah, vous répondrez oui, si vous présupposez un libre arbitre. Et puis, vous répondrez non si, au contraire, vous postulez un déterminisme universel, c'est-à-dire à ce moment-là, vous considérez l'homme comme un être naturel, comme les autres, hein, qui est soumis aux lois de la nature comme les autres, et vous considérez que, par exemple, entre l'homme et la bête, il y a une différence de complexité, mais il n'y a pas une différence de nature. Alors que si vous prêtez à l'homme un libre arbitre, vous considérez qu'il y a une différence de nature entre l'homme et la bête. Et là, ce sera l'occasion de confronter des textes, ils sont assez plaisants à lire d'ailleurs, hein, vous verrez, le fameux article de Voltaire sur la liberté dans le dictionnaire philosophique, puis quelques textes de Diderot, que je vous ai aussi joints, et un texte de Rousseau. Alors, Voltaire, Diderot, déterminisme universel, Rousseau, liberté de la volonté. Et après avoir examiné la notion de libre arbitre et les débats qu'elle suscite, eh bien, nous examinerons la notion de nécessité qui lui est opposée, et alors à ce moment-là, nous demanderons si l'opposition de la nécessité à la liberté est une opposition absolue. Est-ce que la nécessité exclut radicalement la liberté? Effectivement, si vous envisagez une nécessité absolue, elle exclut la liberté. Mais la nécessité peut-elle ici être absolue? Tout le problème est là. Alors voilà les trois points que je voudrais aborder. Il n'est pas sûr que je pourrais aborder le troisième ce soir. Donc l'analyse du libre arbitre que nous avons commencé nous a conduit à réfléchir, souvenez-vous, sur l'idée d'une liberté d'indifférence. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'homme n'est déterminé par rien, lorsqu'il se trouve dans une situation d'indifférence, on peut dire aussi une situation d'indétermination, c'est-à-dire quand il n'a aucune raison de choisir une direction plutôt qu'une autre. Vous voyez, c'est ça, la situation d'indifférence. Hein, au fond, le choix est égal. Hein, aucune raison d'aller dans un sens ou dans un autre. Eh bien, lorsque l'homme se trouve dans cette situation, si on prend au sérieux l'idée de liberté d'indifférence, il a toujours le pouvoir, par la seule force de sa volonté, de se déterminer lui-même. Et nul mieux qu'une situation d'indifférence ne permet d'illustrer l'opposition qui existe entre la liberté de la volonté humaine et puis l'absence de liberté de l'animal. Souvenez-vous, on en avait parlé. Si vous imaginez un âne ayant autant faim que soif, hein, la fameuse fiction de l'âne de Buridan, vous vous souvenez. Donc, si vous vous imaginez un âne qui a autant faim que soif et qui se trouve placé à égale distance de la nourriture et de la boisson, eh bien, dans une telle situation, la faim et la soif s'annuleront. car elles sont de force égale. Et l'animal sera condamné à rester immobile et à mourir de faim et de soif. C'est ça la fiction de l'âne de Buridan. Eh bien, placé dans la même situation, souvenez-vous, l'homme peut au contraire choisir de commencer ou par la boisson ou par la nourriture, mais peu importe, de toute façon, il commencera. Même s'il n'a aucune raison d'aller plutôt dans un sens ou dans un autre, il commencera. Donc, vous voyez, la liberté d'indifférence permet de faire pencher la balance, même quand on n'a aucune raison de choisir ceci plutôt que cela. Donc, la situation d'indifférence révèle ainsi, de manière exemplaire, le pouvoir absolu de la volonté humaine. Elle a le pouvoir de se déterminer par elle-même, sans y être incitée par aucune raison, ou quand il se trouve que les raisons sont de même force. Mais si la liberté de la volonté est absolue, elle ne se manifeste pas seulement dans les situations d'indifférence, elle se manifeste aussi à l'égard de toute détermination, qu'elle soit sensible ou intellectuelle, qu'il s'agisse d'un mobile qui vient d'une émotion ou d'une passion, ou qu'il s'agisse d'un motif qui vient d'intelligence. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la liberté de la volonté est absolue en ce qu'elle peut affirmer son indépendance et se rendre indifférente à l'égard de toute détermination, même lorsqu'il s'agit d'une noble détermination, même lorsqu'il s'agit d'un noble motif. Et ici, rappelez-vous, on avait vu ce texte, alors il est sur la page 2, sur la page 2. C'est la lettre au père Mélan, le texte numéro 6. Je lis juste la dernière phrase, ce que Descartes écrit à la fin de cette lettre. Il nous est toujours possible, les trois dernières lignes, hein, page 2, page 2 et texte numéro 6. Il nous est toujours possible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu ou d'admettre une vérité évidente, pourvu que nous pensions que c'est un bien d'affirmer par là notre libre arbitre. C'est-à-dire que dans un tel cas, la liberté d'indifférence n'a d'autre justification que de montrer le caractère absolu, le caractère indépendant de la volonté, le caractère absolu de la liberté de la volonté. Et montrer son caractère absolu, c'est montrer qu'elle est une force capable de s'opposer même à de fortes raisons de choisir, de s'opposer même à ce que la raison nous montre comme étant un bien ou une vérité, ou pour utiliser une métaphore assez connue, elle s'avère une force capable de renverser la balance, même lorsque l'un des plateaux est plus lourd et plus chargé que l'autre. C'est-à-dire quand il y a des raisons plus fortes d'aller dans un sens que dans l'autre sens. Et même dans ce cas-là, au fond, la liberté d'indifférence va consister à montrer que la volonté est tellement indépendante qu'elle peut aller contre les plus fortes raisons, en quelque sorte, qui nous incitent à faire tel choix. Donc, si je récapitule, la liberté de la volonté est absolue en ce qu'elle est une force qui non seulement est capable d'agir sans qu'aucune raison ne nous y détermine, mais qui est aussi capable d'agir contre les bonnes raisons que notre raison, que notre entendement nous présente. Alors, l'entendement ou la raison, ici, c'est la faculté de connaître, si vous voulez. Bon, mais vous avez compris ce point, on l'avait évoqué, on avait dit tout cela la dernière fois. Mais Descartes ne s'en tient pas là. Il ne s'en tient pas là, car, au fond, si on s'en tenait là, la liberté qui se déterminerait sans motif, serait en définitive un pouvoir assez absurde. Une liberté qui agit, qui se détermine sans motif, c'est tout de même un pouvoir absurde. Or, justement, ce qu'il va montrer, c'est que loin de constituer la forme la plus pure de la liberté d'indifférence, qui consiste à s'affirmer comme un pouvoir indéterminé, la liberté d'indifférence est en réalité la forme la plus pauvre de la liberté. Il va même dire, elle est le plus bas degré de la liberté. Et c'est ce que je souhaiterais expliquer. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que se déterminer sans raison, indépendamment de tout savoir, indépendamment de toute connaissance, ben cela revient à procéder à un choix aveugle. Et vous allez lire avec moi le texte numéro 5, de la ligne 27 à la ligne 36, le texte qui se trouve, donc page 2, texte numéro 5, à droite, en haut, et ligne 27 à 36. À la fin, en fait. Je lis la fin. C'est assez facile à comprendre. De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre, par le poids d'aucune raison, est le plus bas degré de la liberté, et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire. Et ainsi, je serais entièrement libre sans jamais être indifférent. Donc voilà un passage important. Au fond, la liberté d'indifférence, elle s'exerce surtout dans des situations où on est dans l'ignorance, où on est ignorant, où on ne sait pas quelle partie il faut prendre. Où, vous voyez, on n'a aucune raison d'aller dans un sens ou dans un autre, tout simplement parce qu'on ignore ce qu'il en est. Ainsi, quand je choisis sans motif, en fait, je m'en remets au hasard. Je m'en remets dans la pratique au hasard. Je m'en remets à l'influence des circonstances extérieures. Et alors, je m'expose à des déconvenues. C'est-à-dire qu'en laissant les circonstances extérieures décider à ma place, je perds en fait la capacité de disposer de mes actions. Je me retrouve privé de ce qui pourtant paraît être la caractéristique essentielle de la liberté, à savoir la maîtrise de ce que je fais. En fait, je ne maîtrise plus rien. Je ne maîtrise plus rien, puisque je suis dépendant ici des circonstances extérieures. Donc choisir sans raison, c'est choisir aveuglément. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'en tenir à définir la liberté simplement comme un pouvoir absolu de choix. Être véritablement libre, être pleinement libre, être entièrement libre, comme dit Descartes, ce n'est pas refuser toute détermination, ce n'est pas être indifférent, mais c'est se déterminer en connaissance de cause. Au terme, évidemment, d'un examen réfléchi qui montre à la volonté quel est objectivement le meilleur parti à prendre. Alors, oui, soyons clairs, la liberté est d'abord la liberté est un pouvoir de choix. Oui, c'est un pouvoir de choix, la liberté. La liberté de la volonté consiste dans un pouvoir de choix. Ça, on ne renonce pas à cette idée. Elle est, oui, une puissance des contraires. C'est-à-dire que je peux toujours dire non à un choix. Je peux toujours, je ne suis pas condamné à un choix. Je peux toujours choisir le contraire. Mais ce que veut montrer Descartes, c'est que ce pouvoir n'est pas autosuffisant. Il n'est pas autosuffisant, parce que être pleinement libre, c'est ce qu'il veut montrer en tout cas, c'est pouvoir acquiescer à ce que montre une autre faculté qui se trouve en moi, qui se trouve en mon esprit, et cette autre faculté, c'est la raison, ou ce qu'il appelle aussi l'entendement, la faculté de connaître. Quand je me détermine selon ce que ma raison m'indique, je suis en fait déterminé par quelque chose qui m'est propre. Je suis déterminé par quelque chose qui m'est intérieur. La raison, elle est en moi. Je ne suis pas sous une contrainte extérieure. Vous voyez, je ne subis pas une contrainte extérieure. Hein, la raison, elle m'appartient, elle est en moi. Donc je me détermine de manière autonome. J'agis vraiment par moi-même. Alors bien sûr, et je le redis, la liberté de la volonté reste bien une puissance des contraires, qui fait que je peux toujours vouloir autre chose que ce que je vais choisir. Mais, je répète, ce pouvoir n'est pas autosuffisant. Et la vraie liberté, la pleine liberté, consiste à acquiescer à ce que nous montre la raison. Plus j'ai de raisons de faire ce que je fais, plus je sais vraiment ce que je veux, et plus je suis sûr de vouloir vraiment ce que je veux, et plus je suis libre. Et si je suis d'autant plus libre que j'ai de raisons de me ranger à ce que je fais, eh bien cela signifie que la liberté parfaite, c'est celle où je sais parfaitement ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je suis souverainement libre quand je sais que je ne pourrai pas faire autre chose que ce que la raison me commande. Ainsi, contrairement à une idée reçue, je ne suis pas libre simplement parce que j'ai le choix. Alors bien sûr, il faut que j'ai le choix et que j'ai l'initiative de ma conduite. Mais la liberté s'entend en un sens plus profond. Je ne suis vraiment libre que lorsqu'au terme d'une délibération, je n'ai plus le choix. En fait. C'est-à-dire que je réalise, à ce moment-là, je réalise que ce que je croyais être un choix, hein, je réalise alors que je croyais avoir le choix. Je croyais avoir le choix, mais en fait, je croyais avoir le choix tout simplement parce que j'étais ignorant. Je mettais à égalité des possibilités qui n'ont pas la même valeur. Mais désormais que je suis éclairé. Une seule solution est la bonne. Une seule. Et je découvre à ce moment-là que je n'ai qu'une possibilité et que dans mon choix, à bien y réfléchir, je n'ai pas le choix. Alors, vous voyez, nous pouvions penser au départ que la liberté de la volonté consistait dans son indétermination, hein, dans son indépendance. Eh bien, on comprend maintenant que dans son plus haut degré, elle est autodétermination. Autodétermination. C'est-à-dire que quand je découvre par ma propre raison le seul chemin que j'ai à prendre, je ne suis pas contraint. Je ne suis pas contraint. C'est moi qui me détermine, hein, par ma raison, à suivre ce chemin. Et j'ai de bonnes raisons de prendre. Et c'est le seul qui s'impose à moi. Donc vous voyez ce que dit Descartes sur la question. Vous voyez, une réflexion assez fine. Mais ce que Descartes considère comme un acte d'autodétermination, vous allez voir que Leibniz y voit au contraire une forme de déterminisme. Et c'est ce que nous allons maintenant comprendre. Oui, pour Descartes, je rappelle que, au fond, la liberté la plus haute, elle consiste dans une autodétermination, mais qui repose sur la liberté absolue de la volonté, sur un choix. Mais pour Leibniz, il n'y a pas de choix. L'esprit ne dispose pas du pouvoir absolu de se déterminer. Il est toujours déterminé. Il est toujours déterminé par des raisons, quelle que soit la situation. Qu'il s'agisse d'une situation où je délibère sur ce que je dois faire, ou qu'il s'agisse d'une situation où j'agis sans penser à ce que je fais. Dans toutes les situations, vous allez comprendre, selon Leibniz, j'agis toujours selon une raison. Je suis toujours déterminé, mon esprit est toujours déterminé par une raison. qu'elle soit consciente ou non consciente. Si je reprends la situation que décrit Descartes, quand je vois clairement par l'entendement quel est le meilleur parti que je dois prendre à l'issue d'une délibération, eh bien, je ne choisis pas d'acquiescer à ce que l'entendement me montre comme le meilleur parti. Ça, c'est ce que dit Descartes. Comme si je pouvais ne pas le suivre. Comme si je pouvais choisir autrement. Si on parle de libre-arbitre, c'est qu'on a toujours le choix de faire autre chose. Non, ça, c'est pas ce que dit Leibniz. Quand je vois clairement par l'entendement quel est le meilleur parti que je dois prendre à l'issue d'une délibération, je suis déterminé par l'entendement à le suivre. Ma volonté est déterminée par l'entendement à suivre ce chemin. Et comme l'explique Leibniz, on avait vu ce texte, hein, il posait problème tout de même. Hein. Vous vous souvenez, c'est du paragraphe 8, c'est dans la page 1. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme l'explique Leibniz, ma décision est déterminée à ce moment-là de façon certaine et infaillible. C'est l'expression qu'il avait employée. De façon certaine et infaillible. Voilà. Donc là, il n'y a pas de choix. C'est ma raison et à déterminer mon choix. Je ne peux pas faire autrement que de suivre ici la raison quand je suis convaincu par la raison que c'est le meilleur choix. Dans la vie ordinaire, je ne réfléchis pas toujours à ce que je vais faire. J'agis souvent sans réfléchir. Eh bien, ici, je n'ai pas toujours conscience des raisons qui déterminent mes décisions. Mais, comme je suis tenté de dire à la façon de Descartes, je suis tenté de dire que j'agis de manière indifférente, que c'est ma liberté absolue qui se détermine elle-même, alors qu'elle n'a aucune raison de choisir ceci plutôt que cela. Leibniz répond, tout ça c'est de la foutaise. L'expérience que nous avons de la liberté d'indifférence, l'expérience que nous croyons faire de la liberté d'indifférence est illusoire. Elle repose sur l'ignorance des raisons, des causes qui nous déterminent à agir. Et voilà ce que va montrer Leibniz. Et à ce moment-là, vous allez prendre le texte, les textes qui se trouvent page 1. Alors, je vais rechercher un texte parce que j'ai... Voilà. Texte numéro 3, page 1. Alors, on ne va pas tout lire, hein, c'est le paragraphe 15 des Nouveaux Essais sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 1, paragraphe 15. On va lire le début. Alors Théophile, c'est celui qui représente Leibniz, hein, dans le dialogue. Toutes les impressions ont leur effet, mais tous les effets ne sont pas toujours notables. Quand je me tourne d'un côté plutôt que d'un autre, c'est bien souvent par un enchaînement de petites impressions dont je ne m'aperçois pas et qui rendent un mouvement un peu plus malaisé que l'autre. Bon. J'arrête là ma lecture pour ce texte. Puis il y en a un autre aussi, texte numéro 5. Alors là, c'est plutôt page 2, je crois. Non. Il est page 5, je l'ai ajouté. C'est un nouveau. Donc vous avez page 5. Alors, on peut lire là carrément le texte en entier, c'est pas très long. Vous savez, c'est en haut à gauche. On n'est jamais indifférent à l'égard de deux parties. Quel qu'on puisse proposer, par exemple, de tourner à droite ou à gauche, de mettre le pied droit devant, comme il fallait chez Trimalcion, je vous en parlerai, ou le gauche. Car nous faisons l'un ou l'autre sans y penser, et c'est une marque qu'un concours de dispositions intérieures et impressions extérieures
quoique insensibles toutes deux, nous déterminent au parti que nous prenons. Cependant, la prévalence est bien petite et c'est au besoin, comme si nous étions indifférents à cet égard, de nous déterminer sans difficulté à l'un plutôt qu'à l'autre. Et j'arrête là la lecture. Mais c'est là que ça s'arrête. Bon, alors, qu'est-ce que tu... Commentaire. Bon, j'ai souvent l'impression de faire des choses sans raison. Mais ce n'est là qu'une impression qui s'explique en réalité par le caractère imperceptible, insensible des raisons qui me déterminent à agir. Et ces raisons, elles agissent en moi sans que je m'en aperçoive, sans que je m'en rende compte. Parce que ces raisons sont trop petites, elles sont trop petites pour être aperçues par la conscience. C'est-à-dire que, fond, qu'est-ce que nous dit ici Leibniz ? C'est qu'il y a des pensées inconscientes. Il y a des pensées inconscientes, les pensées inconscientes qui ne passent pas le seuil de la conscience et qui pourtant agissent en moi, sans que je m'en aperçoive. Vous voyez ? Par exemple, quand je me lève le matin, ben réfléchissez à ça. Est-ce que vous mettez le pied droit avant le pied gauche ? Vous n'y pensez pas, n'y réfléchissez pas. Et vous allez me dire que vous agissez en toute indifférence. Bon, c'est égal, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein, je crois être indifférent à deux possibilités contraires. Je vais encore invoquer comme Descartes le libre arbitre, la liberté d'indifférence. Pas du tout ce que dit, en tout cas, Leibniz. Aussi insignifiante que nous paraît ce genre d'action, il y a toujours une raison qui explique qu'on se lève du pied droit ou du pied gauche. Même si on n'en a pas conscience. Alors je me lève du pied droit, si c'est le cas, sans y penser. Et peut-être que je me lève du pied droit sans m'en rendre compte, parce que je crois, comme le personnage qui s'appelle Trimalcion, auquel fait allusion Leibniz, que se lever du pied gauche, je crois peut-être comme lui, que se lever du pied gauche est signe de malheur. J'en suis superstitieux, pense ça. Et chez Trimalcion, qui était un ancien esclave affranchi, qui était devenu un citoyen très riche, chez Trimalcion, il y a un esclave qui crie au moment où il se lève, le pied droit d'abord. Allez, si je mettais le pied gauche, ce serait très très mauvais signe, dangereux. Bon, mais en tout cas, lui, oui, parce que comme il n'y pense pas, il faut que quelqu'un le lui rappelle. Quoi qu'il en soit, même si les raisons de nos actions nous échappent, nous n'en sommes pas moins déterminés, soit à nous lever du pied droit, soit à nous lever du pied gauche, ou à nous tourner à gauche en nous promenant, ou à tourner à droite, mais nous sommes toujours déterminés dans un sens ou dans un autre. Et ainsi conclut Leibniz, toujours page 5, le texte qui vient après. Oui, le texte est juste après, c'est le paragraphe 13. Si nous ne remarquons pas toujours la raison qui nous détermine, ou plutôt par laquelle nous nous déterminons, c'est que nous sommes tout aussi peu capables de nous apercevoir de tout le jeu de notre esprit et de ses pensées, le plus souvent imperceptible et confuse, que nous sommes de démêler toutes les machines que la nature fait jouer dans le corps. Quand notre corps respire, agit, on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous. Et ben c'est pareil pour finalement ces impressions, ces raisons qui nous déterminent sans que nous puissions les apercevoir. Alors, cette conclusion conduit Leibniz à remettre en cause la prétendue évidence de l'expérience de la liberté de la volonté qui était alléguée par Descartes. Souvenez-vous ce que disait Descartes, hein ? Je rappelle ce que disait Descartes. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Il suffit de prendre conscience, finalement, de notre liberté pour savoir qu'elle existe, intérieurement. Eh bien, que lui répond Descartes ? si les véritables raisons de nos actes sont insensibles ou inconscientes, bah, l'affirmation de la liberté à partir de la conscience que nous en prenons se révèle purement illusoire. Et Leibniz peut d'ailleurs déclarer contre Descartes, alors c'est un petit extrait d'un autre livre qui s'appelle « La Théodicée », je vous l'ai photocopié, hein, regardez ce qu'il dit, juste après. « La raison que Monsieur Descartes a léguée pour prouver l'indépendance de nos actions libres par un prétendu sentiment vif interne n'a point de force. Nous ne pouvons pas sentir proprement notre indépendance, hein, c'est indépendance, et nous ne nous apercevons pas toujours des causes, souvent imperceptibles, dont notre résolution dépend. » C'est QFD. Donc il ne faut pas s'en tenir au sentiment immédiat de notre liberté, qui est largement illusoire. Mais il faut se fier plutôt à ce que Leibniz appelle le principe de raison suffisante. Et qu'est-ce que c'est que ce principe de raison suffisante? C'est le principe qui veut que rien ne se fasse sans raison. En fait, c'est le principe du déterminisme, le principe de raison suffisante. C'est le principe selon lequel, au fond, tout ce qui se produit s'explique par une cause. Rien ne se fait sans raison. Eh bien, c'est ce principe auquel il faut se fier, pour Leibniz. Et en vertu de ce principe, toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, sont déterminées. Tout aussi bien que les mouvements de notre corps, tout aussi bien que les phénomènes naturels, de manière générale. Toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, sont déterminées. Même si, bien sûr, il s'agit d'un déterminisme intellectuel, d'un déterminisme intellectuel et moral, d'un certain type. Mais il y a un déterminisme concernant la pensée. Alors, évidemment, la conclusion, c'est, mais alors, si toutes nos pensées s'enchaînent nécessairement en nous, est-ce qu'on peut encore parler d'une liberté de la volonté? Hein, c'est ça. Si nous sommes mus de manière nécessaire par des représentations intellectuelles qui s'enchaînent en nous de manière analogue au mouvement d'un automate matériel, en quoi peut-on encore parler de la liberté de la volonté humaine? Est-ce que ça a un sens de parler d'une liberté de la volonté humaine? Effectivement, dans cette perspective, il semble qu'on ait affaire à un automate spirituel, et que la volonté de l'individu n'est d'autre choix que d'exécuter les actions, les pensées déterminées par son agencement. Et d'ailleurs, comme le dira le philosophe Kant, dans un texte qui s'appelle « La critique de la raison pratique », Kant moquant ici de Leibniz, hein, je cite, « Et si la liberté de notre volonté ne différait pas de celle de ce dernier, c'est-à-dire de celle d'un automate spirituel, elle ne vaudrait au fond pas mieux que la liberté d'un tournebroche qui, une fois qu'il est remonté, dirige ses mouvements de lui-même. » C'est une liberté où on exécute tout un programme, en fait. Hein, que l'individu exécute un programme. Mais en quoi effectivement, si effectivement toutes nos pensées sont déterminées, encore, on peut encore parler, hein, d'un libre arbitre, d'une liberté de la volonté, ça n'a plus de sens. Donc on est dans une optique déterministe qui s'oppose effectivement à ce que dit Descartes. Mais il y a une opposition. Alors, vous allez me dire, mais qui a raison? Allez. Impossible de trancher. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les deux, vous voyez, ces deux points de vue s'opposent. Alors, donc, vous voyez, c'était la première partie de notre propos. Maintenant, deuxième partie. Donc, nous avons vu comment Leibniz et Descartes s'opposent sur la question de la liberté. Eh bien, c'est le même type d'opposition que nous allons retrouver, mais cette fois-ci sur le terrain de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. Quand il va s'agir de s'interroger sur le statut de l'être humain, sur la place qu'il occupe dans la nature. Et cette interrogation, elle est surtout le fait des philosophes du XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières. Et avant de comprendre leurs arguments, eh bien, je voudrais présenter le problème tel qu'il va se poser. Simple, hein, c'est pas compliqué. On l'a un petit peu dit tout à l'heure. L'affirmation de la liberté de la volonté suppose qu'on différencie les actions et les productions humaines des phénomènes naturels. On considère que ce qui est produit par l'homme n'est pas de même nature que, qu'un phénomène naturel. Il y a une distinction à faire entre ces deux choses. Alors que les phénomènes naturels s'expliquent par des causes, alors que les sciences, à commencer par la physique, établissent la relation nécessaire entre leurs causes et leur existence, le phénomène naturel est étudié comme un effet qui a une cause. Eh bien, accorder à l'homme un libre arbitre, c'est considérer, je le rappelle, c'est considérer qu'il est capable d'être lui-même la cause de ses actions. C'est donc considérer qu'il est indépendant de la nature. Donc c'est considérer du moins qu'il n'est pas réductible à son être physique. Et c'est voir dans ses capacités intellectuelles et morales le signe de son indépendance à l'égard de la nature. Alors le problème est le suivant. Est-ce que l'homme est une exception par rapport au reste de la nature ? Une exception parce qu'il a un libre arbitre, etc. Est-ce qu'il y a notamment une différence de nature entre lui et les bêtes ? Est-ce qu'il y a une supériorité de l'homme sur les êtres naturels qui tient à la liberté de sa volonté ? Ou n'est-il qu'un être naturel, au même titre que les autres êtres, n'ayant qu'une différence de complexité avec les bêtes et non pas une différence de nature ? Voilà le problème qui va se poser. Et là, je propose de lire un certain nombre de textes de Voltaire, de Diderot. Eux sont déterministes. Ils vont contester l'idée de la liberté de la volonté humaine. Et ils ne voient entre l'homme et la bête qu'une différence de complexité. Et puis après, on lira un texte de Rousseau, qui affirme au contraire la liberté de la volonté et voit entre l'homme et la bête une différence de nature. Alors, pour faciliter la lecture, si vous voulez, hein, parce qu'on va, les lire, je crois qu'ils sont vraiment, en plus, assez agréables à lire. Hein, il y a aussi un plaisir des textes en question. Pour faciliter la lecture que nous allons en faire, je vais d'abord présenter, si vous voulez, l'essentiel des arguments. Hein, pour en quelque sorte cadrer les choses. Pour Voltaire, évidemment, il faudra voir ça de plus près. Pour Voltaire, vous verrez, il n'y a pas de liberté de la volonté. La liberté n'est rien d'autre que le pouvoir de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire d'agir sans contrainte. Vous voyez ? Et dans une optique déterministe, c'est la seule définition qu'on peut donner de la liberté. On ne peut pas définir la liberté par la volonté. Par la liberté de la volonté, la liberté, elle n'est que le pouvoir de faire ce qu'on veut, sans rencontrer d'obstacle. Et s'il n'y a pas de liberté de la volonté, ben, il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et la bête, c'est ce que va montrer Voltaire. Alors Diderot, lui, va prolonger et même radicaliser l'argumentation de Voltaire. Alors d'abord, il va montrer qu'une bonne partie de notre vie consiste à agir sans vouloir. La volonté intervient peu dans notre vie. Et après, dans un second temps, il montrera qu'il n'y a pas de liberté de la volonté, que ça n'a pas de sens, qu'il s'agit là d'une illusion, qui s'explique par le fait qu'on ne s'aperçoit pas des causes, de la multiplicité des causes qui nous déterminent, hein, qui déterminent nos actions. Et enfin, il montre que la volonté n'est pas une faculté de l'esprit qui serait distinct du corps et qui aurait le pouvoir de se déterminer par elle-même, mais il va montrer que la volonté est un effet déterminé par des motifs qui viennent de notre physiologie, de notre éducation, de notre histoire et d'une multiplicité de causes qui s'entrecroisent en nous. Et une optique radicalement déterministe et, où on verra aussi, matérialiste. Et puis, à l'opposé, Rousseau, alors, il s'oppose à Voltaire et Diderot. Seulement, attention, il ne va pas simplement dire « Ah non, non, moi, je ne suis pas d'accord, il y a un libre arbitre. » Non, pas comme ça qu'il va le faire. Il va montrer, d'abord, que l'homme est un animal comme les bêtes. On commence par là. Hein. Mais, et d'ailleurs, que l'homme est un animal comme les bêtes, qui ne se distingue aucunement des bêtes par ses sens et son intelligence. Ce n'est pas par l'intelligence que l'homme se distingue des bêtes. Là, il y a une question simplement de différence de degré, de complexité. Mais c'est par la volonté que l'homme se distingue des bêtes. Et qu'est-ce que c'est que la volonté? Il va la définir comme le pouvoir de s'écarter de la nature. Le pouvoir de s'écarter de la nature. Au fond, le pouvoir de s'écarter de sa propre animalité. Au point que cette volonté, en s'écartant de la nature, elle peut avoir des conséquences funestes. Elle peut, par exemple, nous inciter à des excès qui vont nous rendre malades. Et qui vont accélérer notre mort. Vous voyez ? Donc, c'est une autre optique, si vous voulez. Bien sûr, c'est un penseur qui va dans le sens de Descartes, mais il ne pense la question de la liberté par rapport à la nature, dans le rapport de l'homme à la nature. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, qu'il est intéressant. Alors, on va commencer par lire le texte de Voltaire, que je trouve assez amusant, par ailleurs. Pas difficile à comprendre. Et là, on va en faire une lecture assez attentive. Alors, donc c'est un extrait de l'article Liberté qui se trouve dans le dictionnaire philosophique qui est paru en 1764. Donc c'est page 3. C'est le texte qui est en haut, qui est en, à gauche et un peu en haut à droite. Vous l'avez trouvé ? Bon, et j'ai mis des numéros de ligne, comme ça c'est plus facile pour se repérer. C'est bon ? Bon. Alors, il se présente sous la forme d'un dialogue imaginaire entre deux personnages, A et B. Alors, A présente plutôt Voltaire. A va montrer que la thèse du libre-arbitre défendu par B, est absurde. Et si je lis ce qu'il écrit, ou ce qu'il dit au début du texte, pour lui, la liberté ne peut consister que dans le pouvoir de faire ce qu'on veut. Ou, si on le dit de façon plus savante, le pouvoir de faire ce que la volonté exige d'une nécessité absolue. Nécessité absolue, hein, l'expression est importante. Nécessité absolue, cette expression indique bien que selon A, tout ce qui se produit a une cause nécessaire, il n'y a pas d'exception à ça. Quand on veut quelque chose, quand notre volonté veut quelque chose, elle y est déterminée par une cause. Vous voyez ? Donc la nécessité absolue exclut toute idée de liberté de la volonté. Alors B lui oppose... Il oppose à A que la liberté ne peut pas se réduire au pouvoir d'agir, pouvoir de faire ce qu'on veut. Bah sinon, si c'est le cas, il n'y a pas de différence entre lui et son chien. Et là, on a affaire à un partisan du libre-arbitre. Et pour lui, évidemment, la liberté consiste essentiellement dans le pouvoir de la volonté, dans le pouvoir qu'elle a de se déterminer par elle-même. Alors, j'ai présenté les choses. Vous allez voir maintenant que B va adresser successivement trois objections à A, et A va s'employer à les réfuter les unes après les autres. C'est comme ça que le texte est construit. Première objection, ligne 11. Bon, on l'a un peu vu, mais je la reprends. Ligne 11. Je n'ai donc rien au-dessus de mon chien, d'après vous, vous me réduisez à l'état des bêtes. Oh, c'est pas une bête tout de même. je vais admettre. Je dispose d'une volonté qui me distingue radicalement de mon chien. Et fond, ma volonté, c'est un pouvoir absolu de choix. Donc on ne peut pas réduire en conséquence la liberté au seul pouvoir de faire ce qu'on veut. Car à ce compte-là, l'inuit, mon chien de chasse, est aussi libre que moi. Si on l'a défini comme ça, effectivement, mon chien de chasse, il est aussi libre que moi. Alors, B, admet A, qu'il est comme son chien, un être sensible. Oui, bien sûr, je suis il y a quelque chose de commun entre mon chien et moi. Nous sommes tous les deux des êtres sensibles. Comme lui, j'éprouve la faim, la soif, le besoin de dormir. Comme lui, j'ai des sensations. Mais, ligne 21, mais j'ai une âme tout de même. Mais j'ai une âme qui résonne beaucoup. Et mon chien ne résonne guère. Il n'a presque que des idées simples. Et moi, j'ai 1000 idées métaphysiques. Alors, vous voyez, ici, pour B, c'est clair, il y a une différence de nature entre l'homme et la bête. L'homme est au-dessus de la bête par ses facultés intellectuelles et morales, par sa volonté et par sa raison. Donc l'homme, on pourrait dire comme ça, l'homme a une dimension métaphysique au sens originel du terme, il est au-dessus de la physique, au-dessus de la nature. Il est irréductible à la nature. Et notamment par sa faculté de raisonner. Par sa faculté de raisonner, dit B, il peut avoir 1000 idées métaphysiques. Alors que son chien, lui, il n'a que des idées simples. Les idées qui lui viennent de ses sensations. Alors, réponse de A à la première objection. Ligne 24. Regardez bien, ligne 24. J'ai souligné. Eh bien, vous êtes 1000 fois plus libre que lui. C'est-à-dire que vous avez 1000 fois plus de pouvoir de penser que lui. Mais vous n'êtes pas libre autrement que lui. Ça, c'est un point important. Vous voyez, vous êtes 1000 fois plus libre que lui. C'est-à-dire que vous avez 1000 fois plus de pouvoir de penser que lui, mais vous n'êtes pas libre autrement que lui. Alors, au fond, il n'y a pas de différence de nature, selon A, entre l'homme et le chien, seulement une différence de degré. Et regardez ici ce qui est intéressant, la façon dont il parle de la raison humaine. Ce n'est pas une faculté qui élève l'homme au-dessus de la bête, si vous regardez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas une faculté spirituelle qui distingue l'homme radicalement de la bête. A présente la raison comme un pouvoir de pensée, c'est l'expression qu'il emploie, comme un pouvoir de pensée plus performant que celui de la bête. Sous-entendu, la bête aussi a un pouvoir de pensée, mais il est moins performant. La bête aussi pense, mais de manière plus élémentaire, plus simple. Elle n'a que des idées simples. Alors que l'homme, lui, a le pouvoir de produire par combinaison une multiplicité d'idées à partir des idées simples qui lui sont données par les sensations. Alors il y a toute une réflexion sur la formation des idées au XVIIIe siècle. Il vient des philosophes comme Locke, Condillac, etc. Bon, il y a toute une réflexion sur la genèse de la pensée. Et au fond, ici, Voltaire est très marqué par la lecture des philosophes empiristes, qui explique comment nous formons nos idées. Et l'explication ici qu'il donne, c'est que, au fond, notre raison, ce n'est jamais qu'une capacité de combiner des idées, à commencer en partant des idées simples qui sont données par les sens. Mais c'est vrai aussi bien ici de l'homme que de la bête, sauf que l'homme, il peut aller plus loin, c'est tout. Il peut combiner plus. C'est une question de quantité. Alors, où est-ce que j'en suis? Où sont mes feuilles? Donc vous voyez ici que la raison humaine n'est jamais qu'un pouvoir plus performant que l'instinct animal, qui est présenté par A comme un pouvoir de pensée limité. Donc, l'homme est capable de beaucoup plus d'opérations que la bête, mais il n'y a là qu'une différence quantitative et non pas qualitative. Conséquence, et c'est ça qui est important, l'homme est plus libre que son chien, au sens où son pouvoir est plus grand, au sens où il peut faire beaucoup plus de choses, mais il n'est pas libre autrement. C'est-à-dire que tout comme l'homme, l'animal est libre, dans la mesure où il a un pouvoir d'agir, et dans les deux cas, la liberté n'est que le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais la liberté ne se définit pas par la liberté de la volonté. Hein ? Simplement, il y a un pouvoir plus grand dans un cas et plus petit dans l'autre, c'est tout. C'est clair, je pense. Hein ? En plus, le caractère agréable du texte de Voltaire, c'est qu'il nous permet de revoir des idées importantes de manière assez simple. Deuxième objection de B, ligne 29. Alors, cette fois-ci, vous voyez, vous allez voir, B, il se réfère à ce que l'on dit communément. Il évoque le sens commun. Il s'appuie sur des proverbes. Il fait son savant. Vous voyez, il fait son savant, son cuistre. Et d'ailleurs, Voltaire se moque de lui. Hein, bon. Et le seul argument sur lequel s'appuie Voltaire, c'est l'expérience. Il s'en tient à l'expérience, point. Alors, qu'est-ce que dit... quelle est l'objection de B ? Ligne 29. Ligne 29. J'entends ce que tout le monde entend. Ne dit-on pas, tous les jours, les volontés sont libres. Et il invoque ici la doctrine du libre arbitre qui définit, vous le savez, la volonté comme un pouvoir de se déterminer de manière absolue. Alors, réponse de A à la seconde objection. D'abord, il va montrer que la liberté de la volonté, ça c'est un mot vide de sens. Il n'y a aucun sens à parler de la volonté comme d'une faculté abstraite, comme d'une pure faculté, comme d'un pur pouvoir de choix. Ça n'a pas de sens pour lui. A s'en tient à l'expérience. On ne peut pas vouloir sans une raison. Concrètement, on a toujours une raison de vouloir. On ne peut pas parler de la volonté autrement. Une volonté sans motif, ça n'existe pas. Une pure faculté de vouloir, ça n'existe pas. La volonté, elle a toujours une raison. Donc il conteste l'idée d'une volonté qui serait un pouvoir indéterminé, qui se placerait au-dessus de tout motif. Hein, c'est au fond la thèse de Descartes. Alors, donc on est d'accord. Et regardez, ligne 35 à 39. Avec, voilà la réponse effectivement, que va lui adresser ici A. Avec votre permission, cela n'a pas de sens. Ne voyez-vous pas qu'il est ridicule de dire « je veux vouloir » ? Vous voulez nécessairement, en conséquence des idées qui se sont présentées à vous. Voulez-vous vous marier, oui ou non ? Ah, vous voyez comment A va procéder. La réfutation de A consiste à demander à B pourquoi il veut se marier. Et il suffit de lui poser cette question et de laisser B exposer les motifs qui le poussent à se marier pour démontrer tout simplement qu'on ne peut pas vouloir sans raison. Et ici, vous allez voir qu'il suffit d'écouter la réponse de B pour comprendre que sa conduite est tout aussi déterminée que celle de son chien qui court après un lièvre dès qu'il le voit surgir. Et la réponse de B ne manque pas le sel. Regardez bien. Ligne 47 à 49. Ligne 47 à 49. Alors, donc la question c'est A, c'est répondre. Pourquoi voulez-vous vous marier ? Alors, réponse. Parce que je suis amoureux d'une jeune fille, belle, douce, bien élevée, assez riche, qui chante très bien, dont les parents sont de très honnêtes gens, et que je me flatte d'être aimé d'elle et fort bienvenue de sa famille. Donc B veut une petite femme bien docile, qui présente bien, qui sache faire bonne figure dans un salon, chante, hein, c'est chanter, et surtout aussi qui puisse lui rapporter une belle dot par son mariage. C'est pas négligeable. Vous voyez que on commence à comprendre qu'il n'y a en fait aucune différence de nature entre la conduite intentionnelle de B qui veut se marier et puis la conduite instinctive de son chien qui court après un lièvre. Pas vraiment de différence de nature, hein, seulement une différence de complexité, si vous voulez. De même que le chien de chasse court après le lièvre en raison de sa constitution de carnivore, eh bien, de même, B veut se marier en raison de son tempérament autoritaire, de ses mœurs, comme on dirait aujourd'hui, patriarcales, et de considérations très intéressées qui sont parfaitement conformes à son milieu social. Vous êtes d'accord ? Bon. Et d'ailleurs, on peut apprécier ici la réponse ironique de A à B, que je trouve assez savoureuse, ligne 50 à 53. Voilà une raison. Vous voyez que vous ne pouvez vouloir sans raison. Je vous déclare que vous êtes libre de vous marier, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de signer le contrat. Vous voyez, il parle un peu à la manière d'un prêtre qui déclare les époux mariés. Hein, vous avez remarqué ? Bon. Alors, troisième objection de B. Dernière objection. Alors, encore, il s'appuie sur un argument d'autorité. Et il va citer cette fois un proverbe en latin. Alors regardez, ligne 54-56. Comment je ne peux vouloir sans raison ? Et que deviendra cet autre proverbe ? Sit pro ratione voluntas. Ma volonté, ma raison. Je veux parce que je veux. Évidemment, pour montrer ici, vous allez voir, que pour montrer à A, qu'on peut vouloir sans raison, eh bien, il va évoquer un exemple, l'exemple d'un jeu de hasard, dans lequel on n'a aucune raison de choisir père plutôt qu'impair. Hein, et il donne, regardez, ligne 59. Quoi, lorsque je joue à père ou non, j'ai une raison de choisir père plutôt qu'impair ? Donc, là encore, vous voyez comment il procède, mais il se réfère à la notion de liberté d'indifférence. Hein ? Dans la situation d'indifférence, qui est celle du jeu de hasard, la volonté n'a pas plus de raison de choisir pair qu'impair. Donc c'est sa libre décision qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, réponse d'or à la troisième objection de B. D'abord, la liberté d'indifférence n'existe pas. Et vous allez trouver ici un Voltaire très leibnizien. Lui qui se moque volontiers de Leibniz par ailleurs. Hein. Donc, regardez bien ce que dit exactement A. Si B a choisi père, c'est tout simplement parce que l'idée de père s'est présentée à son esprit, plutôt que l'idée opposée. Sa volonté n'y est pour rien. Ligne 63. C'est que l'idée de père s'est présentée à votre esprit, plutôt que l'idée opposée. Et l'idée, par ailleurs, l'idée d'une liberté d'indifférence est parfaitement absurde. Ligne 57, regardez ligne 57. Cela est absurde, mon cher ami. Il y aurait en vous un effet sans cause. Parce qu'effectivement, admettre que B choisisse père sans raison, c'est admettre un effet sans cause. Or, vous voyez qu'ici, la liberté d'indifférence est en contradiction avec le fameux principe de raison suffisante qui veut que rien ne se fasse sans raison. Principe du déterminisme, si vous voulez. Et A suggère enfin que si l'idée de père s'est présentée à l'esprit de B, c'est en raison d'un motif très faible, trop faible pour être aperçu de lui. Là encore, vous êtes dans une argumentation de type leibnizien. C'est-à-dire qu'on perçoit bien les raisons dominantes de nos choix comme celles qui nous incitent à nous marier, ça, on est conscient. Mais quand il s'agit d'une raison faible, comme celle qui me pousse à choisir père plutôt qu'impair, Bah, je ne sens pas la raison pour laquelle je choisis père. Hein. Et, mais dans tous les cas, que la raison soit forte ou qu'elle soit faible, trop faible pour être aperçue, il y a toujours une raison qui détermine mon choix. Vous voyez ce que dit ici ligne, on va reprendre si vous voulez, ligne 65, vous voyez 64 plutôt, 64 à 69. Il serait plaisant qu'il y eût des cas où vous voulez parce qu'il y a une cause de vouloir, et qu'il y eut quelques cas où vous voulussiez sans cause. Quand vous voulez vous marier, vous en sentez la raison dominante, évidemment, parce que la raison est forte. Mais vous ne la sentez pas quand vous jouez à pair ou non. Et cependant, il faut bien qu'il y en ait une. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de la raison qui vous pousse à choisir pair qu'il n'y en a pas. Alors, donc, conclusion, bah, il n'y a pas de liberté d'indifférence. Alors notre pauvre B est dépité, parce que lui, il avait appris à l'école, à la Sorbonne, que effectivement, selon les théoriciens de l'époque, qu'il y avait une liberté d'indifférence. Mais comme l'indique... Alors, c'est pour ça que je vous ai photocopié un autre texte de Voltaire qui se trouve... qui est un extrait du philosophe ignorant. D'ailleurs, le titre est intéressant. Regardez, j'ai souligné un passage qui permet de conclure de façon claire, ligne 18 à 21, les lois de la nature étant toujours les mêmes, ma volonté n'est pas plus libre dans les choses qui me paraissent les plus indifférentes que dans celles où je me sens soumis à une force invincible. Donc, vous voyez, même les pensées les plus insignifiantes, eh bien, elles sont déterminées. Il y a toujours une détermination. J'en viens au texte de Diderot. Le texte de Diderot, philosophe beaucoup moins connu, et bon, vraiment très subtil. Diderot prolonge donc la critique que fait Voltaire de la thèse du libre arbitre, mais vous allez voir qu'il va enraciner le déterminisme dans un matérialisme. Alors, c'est dans les derniers textes, hein, c'est les pages 5 et 6. 5. 5 surtout. 5 et 6. Alors, je vous résume hein, l'essentiel. Qu'est-ce que fait Voltaire ? Qu'est-ce que fait Diderot, pardon ? Dans un premier temps, il minimise le rôle de la volonté dans la vie humaine. Comme va le montrer le premier extrait que je vous ai photocopié, qui est le texte qui se trouve page 5, en bas à gauche, qui est extrait des éléments de physiologie. Alors, vous le lirez à tête reposée, je vais à l'essentiel. La base de l'argumentation d'Diderot, là aussi, c'est l'expérience. L'expérience. La philosophie du XVIIIe siècle se veut expérimentale. Hein ? Non pas, alors quand je dis l'expérience, non pas l'expérience intérieure d'un sujet qui prend conscience de sa liberté, comme le prétend Descartes. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de l'expérience extérieure, de celle que l'on observe. Et vous voyez que le texte commence par « histoire expérimentale de celui-ci ».« Histoire expérimentale ». Donc il va observer de l'extérieur la conduite d'un homme dans son existence journalière. Et alors ici, vous noterez que le personnage n'est pas nommé. Mais on peut deviner assez facilement qu'il s'agit de son ami d'Alembert, avec lequel il a fondé l'encyclopédie. On apprend en effet que cet homme est un géomètre. D'Alembert est un grand géomètre. Et puis, plus loin, ligne 16, on apprend qu'il fréquente une société de philosophes. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Et puis, on voit bien que celui qui observe discute souvent avec celui qui est observé, hein. Et en plus, regardez bien, qu'est-ce que dit d'Alembert de la liberté ? Toujours dans le passage, il soutient à corps et à cri que l'homme est libre. D'Alembert soutient à corps et à cri que l'homme est libre. Et c'est fait. Et c'est vrai que d'Alembert soutient, comme le philosophe Descartes, que l'homme dispose d'un libre arbitre et que le siège de la volonté, c'est l'âme. L'âme, vous savez, comme substance immatérielle. Alors, qu'est-ce que va montrer le récit de cette histoire expérimentale? Il va d'abord montrer surtout que l'expérience de l'homme qui est observé, est surtout celle d'une succession de motifs qui déterminent sa conduite et qui le font se mouvoir sans y réfléchir, sans réflexion, et sans que sa volonté intervienne. Regardez le début, hein, ligne 2. Ligne 2 à ligne 5, par exemple. Il s'éveille, tout en rouvrant les yeux, il se remet à la solution du problème qu'il avait entamé la veille, il prend sa robe de chambre, il s'habille sans savoir ce qu'il fait, il se met à table, etc., etc., etc. Et plus loin, quand plus loin, par exemple, ligne 18, quand plus loin, Diderot lui demande de rendre compte des actions qu'il a accomplies pendant la journée, eh bien, le personnage lui répond qu'il ne sait rien, mais rien du tout de ce qu'il a fait. Rien. Et Diderot conclut à ce moment-là, et je vois, hein, vous voyez, c'est dans le, c'est ligne 19-20, et je vois que machine pure, simple et passive de différents motifs qui l'ont mu, loin d'avoir été libre, il n'a même pas produit un seul acte exprès de sa volonté, il a pensé, il a senti, mais il n'a pas agi autrement qu'un corps inerte. Vous voyez, il minimise ici le rôle de la volonté, il montre qu'au fond, l'homme se conduit de façon machinale, hein, et qu'il exécute des mouvements sans y réfléchir, mu par des motifs qu'il n'a pas choisis. Après avoir minimisé le rôle joué par la volonté dans la vie humaine, Diderot va plus loin. Et là, il faut lire le texte qui est à côté, une lettre très célèbre que Diderot écrit à Landois en juin 1756. Il va montrer que la liberté de la volonté n'est qu'une pure illusion et que le mot liberté est un mot vide de sens. Alors, lisons le début. Regardez-y de près, et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens, qu'il n'y a point et qu'il ne peut y avoir d'être libre, que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements. Voilà ce qui dispose de nous invinciblement. Petite précision de vocabulaire, le mot organisation, 18e siècle, signifie l'organisme. Au fond, c'est la physiologie. Hein, l'animal quoi, que nous sommes, hein, l'organisation. Alors, vous voyez, le mot « liberté » est un mot vide de sens. Pourquoi ? Bah, parce que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, parce que nous lui appartenons. Nous sommes pris dans la chaîne des événements et nous ne pouvons pas leur être extérieurs ou supérieurs. Ce que nous sommes, comme dit ici, et ce que nous faisons en conséquence, eh bien, cela résulte d'un enchaînement de multiples causes qui sont en nous et à l'extérieur de nous. En nous, notre organisation, notre physiologie, notre éducation, et puis aussi tous les événements du monde extérieur. Alors évidemment, la question c'est, mais comment expliquer à ce moment-là que nous ayons l'illusion de la liberté ? Eh bien, deux raisons expliquent que nous ayons l'illusion de la liberté. Lisons la suite, le passage que j'ai souligné, ligne 11. Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. Donc il y a deux raisons. D'une part, nous nous croyons libres parce que la prodigieuse variété de nos actions nous fait croire qu'il n'y a pas de liaison entre elles. Parce que nous n'apercevons pas la liaison des causes et des effets qui nous déterminent. Elles nous échappent. Alors nous croyons que certaines actions sont librement décidées. Et d'autre part, deuxième raison, nous confondons, comme dit Diderot, le volontaire et le libre. J'explique. C'est-à-dire, nous nous représentons la volonté, encore une fois, comme un pouvoir absolu de l'âme, pouvoir d'agir par elle-même, d'engendrer par elle-même des actions, et à ce moment-là, nous croyons que les actions volontaires, ben, ce sont des actions qui résultent de la liberté de la volonté. Et nous identifions le volontaire et le libre. Hein, nous croyons que les actions volontaires, ce sont des actions décidées par, librement par la volonté. Or, ce que nous appelons la volonté n'existe pas. C'est un pur fantôme métaphysique. Ce qui est volontaire, c'est avant tout ce qui est l'effet d'un enchaînement de causes. Et vous avez là deux passages qui peuvent être très intéressants. Vous avez d'abord un personnage du Rêve de D'Alembert, qui est une grande œuvre de Diderot, un dialogue philosophique. J'ai souligné juste une phrase qui me paraît significative, c'est page 6 en haut. La volonté, c'est un mademoiselle de Lespinasse hein, qui dit ça, la volonté naît toujours de quelques motifs intérieurs ou extérieurs. Hein. Vous voyez cette phrase? Et puis, surtout, je crois qu'il faut lire, il faut revenir au premier texte que j'avais lu avec vous. Regardez la fin, regardez les 3-4 dernières lignes du premier texte, extrait des éléments de physiologie. Je lis. L'on dit que le désir naît de la volonté, c'est le contraire. C'est du désir que naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation. Le bonheur et le malheur, fils du bien-être ou du mal-être. On veut être heureux. Et voilà un passage qui mérite vraiment d'être bien compris. D'abord, première chose, il n'y a pas de volonté sans motif. Et nous ne choisissons pas nos motifs. La représentation d'une chose comme désirable ne dépend pas de nous. Hein, nous ne désirons pas une chose parce que nous en avons décidé. La représentation de cette chose comme désirable ne dépend pas de nous. Elle dépend de notre organisation, c'est-à-dire de notre nature animale, de notre physiologie, de l'état de notre corps, de l'éducation, enfin de toutes les causes qui nous conditionnent. Et vous voyez ainsi que le bonheur, c'est pas une question de choix. C'est pas une question de choix. On veut être heureux, d'abord parce qu'on désire être heureux. Et ce désir du bonheur, il n'a pas d'autre fondement que notre organisation, que notre physiologie, que notre corps, si vous voulez. C'est-à-dire que le désir d'être heureux, il vient de notre organisation qui cherche son bien-être. Et ce désir d'être heureux, eh bien, il va diriger fondamentalement tous les désirs. Mais là, il n'y a aucun libre arbitre, il n'y a aucune liberté de la volonté, il n'y a que de la nécessité, il n'y a que des causes, il n'y a qu'un enchaînement de causes et d'effets. Vous voyez ? Et j'en arrive au dernier peut-être texte, bon, on va tout de même lire Rousseau, parce qu'on n'ira pas plus loin, mais vraiment c'est un très grand texte que celui de Rousseau, qui lui va s'opposer hein, à la lecture déterministe de Voltaire et Diderot. Alors, je vais aussi aller à l'essentiel, hein, je ne vais pas expliquer le texte en entier. Hein. Si vous voulez, puisque je vais parler de Rousseau, c'est un texte célèbre, extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il serait trop simple de présenter Rousseau comme quelqu'un qui s'oppose tout simplement à Voltaire et Diderot parce qu'il est un partisan du libre-arbitre. Ce serait un peu trop simple de dire les choses comme ça. Ce serait pas faux, mais ce serait inexact. Parce que Rousseau, vous allez voir, ne conçoit pas la volonté de l'homme comme un pouvoir absolu de décision dans l'abstraction. Mais plus exactement, il va présenter la volonté comme un pouvoir d'accepter ou de refuser ce que la nature nous incite à faire. La nature qui est en nous, la nature c'est les désirs, justement ce que Diderot appellerait l'organisation, si vous voulez. elle nous incite à désirer. Eh bien, la liberté, elle est le pouvoir, justement, d'acquiescer à ce que la nature nous commande, ou au contraire, de le refuser. Vous voyez, elle se détermine par rapport à la nature. Donc la question, vous voyez, de la liberté est indissociable pour Rousseau d'une réflexion sur le rapport de l'homme à la nature. C'est ça qu'il faut d'abord bien comprendre. Et avant de montrer que l'homme se distingue de la bête par sa volonté, vous allez voir que Rousseau établit leur communauté d'appartenance au genre animal. C'est-à-dire que l'homme et la bête sont des animaux. Ce sont des animaux. Regardez la première phrase. Je ne vois dans tout animal, et ça concerne aussi bien la bête que l'homme, je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tend à la détruire ou à la déranger. Bon, donc vous voyez que tout animal, c'est pas seulement la bête. L'animal, vous voyez, il distingue bien les deux termes, animal et bête. L'homme est un animal. Tout animal, qu'il soit homme ou bête, est pourvu d'un organisme. Alors on dit une machine à l'époque. D'un organisme doté d'une autonomie de mouvement et capable de pourvoir à sa conservation. Et en tant qu'animal, l'homme est un être sensible, comme les bêtes. Et sa vraie différence d'avec les bêtes, comme le montre aussi Rousseau dans le texte, ne consiste pas dans l'intelligence. Et là-dessus, Rousseau ne tient pas le même discours que B dans le dialogue de Voltaire. Alors regardez bien ce qu'il dit au début du deuxième paragraphe. Tout animal, c'est ligne 22, tout animal a des idées puisqu'il a des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. C'est-à-dire que, pour Rousseau, la formation des idées s'explique à partir du mécanisme des sens. C'est-à-dire, au fond, on peut expliquer par la physique la formation des idées. On n'a pas besoin de faire appel à une puissance métaphysique pour expliquer leur formation. La formation des idées, elle peut s'expliquer à partir des sens de manière mécanique, par un jeu de combinaisons. Et les premières idées, ben, ce sont les sensations. Et puis ensuite, les idées qui en sont dérivées, eh bien, elles résultent de leur combinaison. Vous voyez, raisonner, c'est combiner. C'est combiner des idées. Et sur ce point, l'homme est capable de combiner beaucoup plus que la bête. Mais au fond, il n'y a qu'une différence de degré entre les deux. Il n'y a pas une différence de nature sur ce terrain-là. Vous voyez, là-dessus, vous voyez, Rousseau est très proche de ce que disent Voltaire et Diderot à ce niveau-là. Non, la vraie différence avec la bête n'est pas l'intelligence, c'est la volonté. Et là, évidemment, il faut lire le fameux passage que j'ai souligné. Il y en a un autre encore, mais enfin, on va se contenter de celui-ci. Vous voyez, cette différence, ligne 5, 6, cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre, l'un choisi ou rejette par instinct et l'autre par un acte de la liberté, un acte de liberté, ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. Alors voilà, ça c'est là l'essentiel. C'est-à-dire que la bête sélectionne sa nourriture par instinct. C'est pas vraiment un choix. C'est une sélection automatique. C'est la nature qui choisit en elle. L'homme choisit, lui au contraire, par un acte de sa liberté. Et en ce sens, il peut s'écarter de ce que la nature lui prescrit, de ce que la nature lui commande. Vous voyez, il peut concourir aux opérations que la nature lui dicte. Concourir, ça veut dire consentir. comme il peut effectivement, au contraire, refuser de suivre ce que la nature commande. Et ici, comme le montre aussi Rousseau, l'absence de choix chez l'animal peut l'empêcher de survivre dans certaines situations. Il donne des exemples d'ailleurs. Hein, un pigeon mourrait de faim, dit-il, près d'un bassin rempli des meilleures viandes, parce que son instinct fait qu'il ne va pas les manger. Un chat, pareillement, un chat périrait sur un tas de fruits, s'il n'y avait que des fruits. Alors que l'homme pourrait toujours trouver le moyen de s'écarter, au fond, de ce qu'il mange habituellement pour manger autre chose et se nourrir. Mais à l'inverse, la présence d'une volonté libre peut également nuire à l'homme en le conduisant à s'écarter de la nature. Et là, vous avez ici, regardez ce texte, ce passage, hein, ligne 17, « C'est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. » Magnifiquement écrit. C'est-à-dire que les choix de l'homme peuvent avoir des conséquences funestes pour sa vie, hein, puisqu'il peut se livrer à des excès, alors que l'animal ne le peut pas. Hein. Donc la différence, vous voyez, entre l'homme et la bête consiste donc dans cette volonté qui est la seule faculté spirituelle, la seule faculté métaphysique, si vous voulez. L'esprit, c'est la volonté en l'homme. C'est pas l'intelligence. L'esprit, c'est la volonté. Et elle est cette faculté qui peut dépraver en l'homme l'animal. Qui peut dépraver en l'homme l'animal qu'il est, en le rendant malade par ses excès. C'est-à-dire, vous voyez, au fond, la nature, comprenez, quand Rousseau parle de la nature, il parle de la nature qui est en nous. C'est notre animalité, la nature. Eh bien, l'homme, justement, par la volonté, a la capacité de s'écarter de son animalité. Et c'est ça qui change tout entre l'homme et la bête. Vous voyez ? Donc, vous voyez, une réflexion assez fine, tout de même, et qui s'oppose, évidemment, au déterminisme. Alors, qui a raison, qui a tort ? Impossible de trancher. Hein ? Impossible de trancher. Évidemment, j'en resterai là ce soir, parce que sinon ça va être trop long, je n'aborderai pas ma troisième partie. On la reprendra la fois suivante, et on abordera aussi la réflexion de Kant sur le sujet, parce que je pense elle nous permettra de clôturer, si vous voulez, cette première grande réflexion sur la liberté. Et ensuite, si vous voulez, je vous indique ce que je ferai. Après on lira quelques grands philosophes sur la question. J'envisage Spinoza ou Sartre. Et après, j'aborderai la question de la liberté sur le plan politique. Voilà à peu près comment les choses se feront. On ne pourra pas parler de tout. Voilà, je vous remercie et je suis à vos questions. Alors, je suis désolé, vous aviez une question.
La première, c'est Descartes, vous dites. La liberté, donc, de choix, mais en fait, il dit qu'on a la liberté après avoir réfléchi et trouvé qu'il était le bon choix. En fait, on n'est pas libre.
Non, la liberté est toujours choix, quoi qu'il en soit. Même quand c'est le choix, même quand c'est un mauvais choix, c'est un choix. Et le plus bas degré de la liberté, c'est de choisir sans raison, c'est-à-dire au petit bonheur la chance, quoi. C'est un choix aveugle. Et il tient à le dire parce qu'on pourrait penser, si on s'en tient à la première partie de son analyse, qu'au fond, il fait une sorte d'éloge de la liberté comme pouvoir d'indétermination. On pourrait penser qu'il fait une sorte d'éloge de la liberté d'indifférence. Alors, il parle de la liberté d'indifférence pour bien montrer que notre volonté dispose d'un pouvoir absolu de choix, qu'elle pourrait toujours choisir contre ce que la raison lui recommande. Hein, il n'y a aucune nécessité. Aucune nécessité. Mais, dans un second temps, il montre que un tel choix est absurde. Et que nous ne sommes pleinement libres, au sens où nous agissons vraiment par nous-mêmes, lorsque nous décidons en connaissance de cause, quand la liberté de la volonté, acquiesce à ce que montre la raison. Vous voyez ? Donc là, c'est, là, à ce moment-là, il fait des distinctions entre les degrés de liberté, le plus bas et le plus haut.
Et le plus haut consiste à accepter ce qui est le seul choix possible.
J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que quand j'ai réfléchi, j'ai compris que toutes les possibilités n'étaient pas équivalentes. Je comprends aussi que, au fond, le seul choix raisonnable, c'est celui-ci, pas un autre. Mais je choisis. Je choisis en me disant je n'ai pas le choix, si vous voulez. Mais je choisis. Vous voyez ? Je pourrais ne pas le choisir. Alors que, vous voyez la différence avec Leibniz, là il dira, il n'y a pas de choix. Là, je suis déterminé à prendre ce parti. Vous voyez, la différence, elle est là. Elle est là. Il n'y a pas. C'est pour ça que je tiens à faire la différence entre ce qui relève d'une autodétermination, dans laquelle il y a tout de même un choix, toujours un choix, un acquiescement de la volonté. Hein, même dans le cas où, effectivement, elle choisit pleinement en connaissance de cause, toujours un choix. Donc je fais la différence entre cette autodétermination puis le déterminisme de la volonté par la raison, selon ce qu'en dit Leibniz, qui, effectivement, prend la voie d'un déterminisme. Hein. Donc là, il y a... Et oui, il parle de la même chose, mais il l'interprète différemment. Et alors évidemment, là où la réflexion de Leibniz est très intéressante, c'est quand il montre qu'il y a des raisons inconscientes qui nous déterminent. Alors que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'idée d'inconscient n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Premier grand philosophe de l'inconscient, c'est Leibniz. Alors évidemment, il ne l'entend pas comme Freud. L'inconscient, ici, ce sont les pensées que je n'aperçois pas, mais qui travaillent en moi. Subconscient. On pourrait, sauf que subconscient, on a l'impression qu'il y a une marmite et que c'est dessous. Quoi. Non, donc c'est pas. Vous voyez, c'est l'inconvénient de subconscient, c'est que ça localise. Vous voyez ? Donc, non, il y a l'inconscient, des pensées inaperçues, trop petites pour être aperçues. Mais alors que pour Freud, ce qui est inconscient, c'est ce qui est barré par un refoulement. Ce qui ne peut pas advenir à la conscience parce qu'il y a une force qui refoule. Mais, bon, même si on fait cette distinction, on n'est tout de même pas très loin.
Mais les pensées inconscientes sont proches de l'instinct.
Ah non, parce que l'instinct, c'est un automatisme, si vous voulez. Ça dépend comment non, parce que l'instinct, si on prend au sérieux l'idée d'instinct, c'est une conduite rigide. Et qui est, et qui est toujours invariablement la même. Et qui opère. Il n'y a aucune singularité. Tandis que lorsque Leibniz parle d'inconscient, de raison inconsciente, cet inconscient, il est toujours propre à chacun, à son histoire. Il y a une individualité, vous voyez ? Donc c'est pas un automatisme. Vous voyez ? Il y a tout de même des pensées inconscientes. Elles peuvent d'ailleurs parfois advenir à la conscience. Hein. Bon. Et même, il ne parle pas seulement de pensées inconscientes, il parle aussi de petites perceptions. C'est-à-dire que quand vous vous écoutez, par exemple, la mer, quand vous entendez les vagues déferler sur le rivage, en fait, ce bruit est un bruit confus qui est composé d'une multiplicité de petits bruits que vous ne percevez pas. Oui, il y a des questions de seuil de perception. Vous voyez ? Et donc là, mais ceci dit, il y a une continuité. Bon, il faut dire que Leibniz, c'est le mathématicien qui a élaboré le calcul infinitésimal. Alors, il réfléchit beaucoup à ces choses-là. Hein? Et donc, oui, il y a des bruits qui sont tellement petits qu'on ne peut pas les entendre. D'ailleurs, certains animaux les entendent. Oui. Mais voilà. Oui, oui, allez-y.
Le choix est le résultat plus ou moins de la raison. Mais le choix peut être aussi, on n'en parle pas, le résultat des sens. Ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est brillant.
Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Mais je veux dire, le choix peut être le résultat de nos sens.
Oui,
ce
bien
qui
sûr.
Est beau, ce qui est bon, le bruit de la mer, ça oui. peut amener à modifier son choix.
Ah oui, là, quand il parle des raisons qui nous déterminent, elles sont pas seulement intellectuelles. Voilà. Les raisons, c'est les causes hein, qui déterminent, au fond, notre activité mentale. C'est des perceptions, c'est des motifs, c'est, vous voyez, toutes sortes de considération. Hein. Et effectivement, il y a là-dedans, effectivement, ce qui relève de la sensibilité. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sauf que la sensibilité en l'homme, elle est toujours un peu élaborée, hein, est toujours mise en relation avec son histoire, etc. Allez-y.
Pardonnez-moi. Effectivement, j'avais peur de m'éparpiller, mais justement, est-ce que la notion de la bête à l'homme, il n'y aurait pas une forme d'aliénation
Cette notion de beauté aliénation, quel sens
aliénation au sens de la définition qu'on pourrait trouver dans le dictionnaire
non, non, mais.
Est-ce qu'on regarde ensemble
non, enfin, je voudrais. Non, mais.
Aliénation, quand l'être vivant n'a pas. A besoin d'une cause réelle ou non pour vivre, ce qui justifierait par exemple j'essaie d'être neutre, les religions par exemple, enfin vous voyez.
Oui. Et alors par rapport à l'animal?
Alors est-ce que justement l'homme qui est un animal social, pour fonder les sociétés, nous avons voulu. Sortir du règne animal et donc est-ce une forme d'aliénation?
Ah oui, est-ce qu'en s'écartant de l'animalité on se perd? C'est ça.
Alors,
que...
ou pas, puisqu'on a réussi à combler le vide, comme vous savez.
Mais d'abord
et d'où la notion de la beauté?
Ouais, alors première chose là, d'un point de vue strictement déterministe limite, il n'y a pas de frontière absolue entre l'animal et l'homme.
Tout à fait, mais l'animal ne peint pas, n'a pas cette
oui.
beauté. Et du coup, c'est en rapport avec quelque chose qui est réel ou non. Mais en tout cas, le cerveau déteste le vide, c'est dit en psychologie. Et du coup, c'est ce qui viendrait nous calmer dans notre animalité, ce qui viendrait nous poser dans nos violences, etc.
Ouais, enfin ça, comment dire, cette évolution qui consiste à sortir de l'animalité, vous pensez qu'elle va nécessairement dans le sens d'un progrès?
Je pense que le progrès est déjà là.
Et oui, mais
évidemment,
il y a des constructions, il y a une culture. C'est ça que vous voulez dire. Il y a une culture, oui, il y a une culture. Mais bon, en même temps, je dirais que c'est pas forcément. La question de savoir si c'est en bien ou en mal, je ne peux pas vous répondre. Hein, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas les moyens de répondre. Je n'ai pas les moyens de répondre à ce stade, en tout cas, si vous voulez. Mais oui, bon. Alors, enfin, toute la question, si vous voulez, la seule question que je me posais, dans les limites de l'exposé que j'ai fait, c'est de savoir si. Quand vous passez de l'animal à l'homme, il y a une rupture. Il y a une rupture, c'est-à-dire qu'au fond, on passe, la culture est un ordre différent. fondamentalement différent qui est en rupture avec la nature, ou est-ce qu'il y a une continuité par un échafaudage plus complexe, etc. C'est ça la question.
Il y a forcément la rupture, puisque moi, dans la rue, je ne peux pas agresser, il y a les lois, etc. Enfin, vous voyez, on s'est sorti de notre animalité.
Oui. Bah, il y a des codes aussi chez les grands singes. Hein. Et on va pouvoir trouver, si vous voulez, on avance dans les études d'éthologie, enfin, comportement animaux, on s'aperçoit qu'il y a aussi, il peut y avoir aussi des formes de culture avec des interdits, etc. C'est pas si évident que ça. Hein. Pas si évident que ça. Hein. Pour l'instant, je préfère en rester aux limites de mon propos. Je n'ai pas les moyens de vous répondre comme ça. Vous voyez ? Allez-y, oui.
En ce qui concerne la décision, on est devant un choix, on est indécis. Est-ce que c'est une perte de liberté ou une absence de liberté ?
Alors, si je vous réponds comme Descartes, par exemple, la décision, disons qu'on ne dira jamais que quelqu'un qui agit sans réfléchir, sans hésitation, fait toujours preuve d'une authentique liberté, vous êtes d'accord avec moi. Ça peut être une façon d'agir complètement inconséquente. Et même quelqu'un qui agit comme ça peut être sous l'emprise justement d'une passion, enfin, peut être complètement déterminé. Hein, bon, il n'agit pas vraiment par lui-même. C'est pas parce qu'il agit spontanément, de manière impulsive, qu'il fait la preuve hein, d'une véritable autodétermination. Alors, l'indécision, ça dépend. Si c'est l'indécision qui précède la délibération, qui va donner lieu à une réflexion sur la question de savoir quel est le bon parti qu'il faut que je choisisse, l'épreuve tout de même d'un souci authentique d'autodétermination. Elle n'est pas destinée. Elle n'est pas destinée à rester définitive. Hein, je vais chercher à m'enquérir de la bonne voie qu'il faut suivre hein, face à telle situation. Si par contre il s'agit d'un état psychologique maladif, d'une incapacité à se déterminer, hein, d'une peur, d'une angoisse, c'est autre chose. Là, on est sous l'emprise. On est sous l'emprise d'un mobile passionnel, là, quelque chose qui inhibe. Alors, il y a des questions à se poser. Parce que ce qui est vrai, c'est un aspect de la question que je n'ai pas abordé. Ce qui est vrai, c'est que quand on se détermine, on sait qu'il va falloir trancher, quoi. Il va falloir s'engager dans une solution. Il ne faudra pas revenir en arrière. Il faut aller tout droit. Il faut aller tout droit. Maintenant, on a choisi. Bon, hein, voilà. Alors, évidemment, si il s'avère qu'on a bonne raison de penser en cours de route qu'on a trouvé une meilleure solution, on n'est pas têtu, on n'est pas obstiné, on peut changer. Mais s'il s'avère entre deux, trois solutions... la question, elle se pose surtout dans les situations où on n'a pas de choix clair. Hein, où la raison ne nous permet pas de déterminer de façon nette et claire la bonne voie. Hein, je ne sais pas, par exemple... On va prendre un exemple emprunt à Descartes, que j'emprunte à Descartes. Descartes raconte la situation d'un homme qui se trouve en plein milieu d'une forêt. Il voudrait pouvoir en sortir. Alors vous avez deux solutions. Soit vous faites comme les tournesols, qui sont dans le désert, tournent en rond, vous savez. Ils changent, ils prennent cette direction, puis peut-être pas là, on va prendre celle-ci. On va peut-être prendre celle-là, puis ils reviennent sur leur pas. On est sur la bonne voie, puisqu'on voit les traces de pneus. On va pouvoir sortir du désert. Vous voyez ? Ils tournent en rond, bon, ça c'est les Dupont. Enfin, vous connaissez dans Tintin. Donc, c'est la pire des choses. L'irrésolution, dit Descartes, c'est le pire des mots. Alors, par contre, celui qui. À défaut de savoir quel est le bon chemin pour en sortir, parce qu'on ne peut pas savoir, on est en plein milieu. Il se dit, je choisis celui-ci et je m'y tiens. Je m'y tiens et je sortirai forcément à un moment donné. Alors peut-être que, évidemment, s'il savait exactement où il se situe, il ne prendrait pas ce chemin. Mais comme il ne sait pas, on n'a pas les moyens de savoir, ben, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un chemin et de s'y tenir. Et là, de ce point de vue-là, vous voyez, l'indécision, l'hésitation...
Quand il décide d'aller tout droit, ouais, et de ne pas dévier de sa route, ouais, à ce moment-là, il a pris une décision.
Il a pris une décision, absolument, tout à fait. Il prend cette règle de détermination. C'est-à-dire il ne dit pas que c'est le meilleur chemin, il ne sait pas, on ne peut pas savoir. Mais en même temps, si on veut se sortir de la forêt, il vaut mieux suivre droit ce chemin et on en sortira. Alors peut-être que c'était pas le meilleur, hein, mais ça on ne peut pas le savoir. S'il s'avère que quelqu'un vient nous dire « Ah non, c'est pas le meilleur, il faut plutôt passer par là », d'accord, on changera, on n'est pas têtu, on n'est pas obstiné. Mais voilà, si vous voulez. Par contre, celui qui est tout le temps en train de changer d'avis, hein, qui ne va jamais, hein, qui reste effectivement dans cette espèce d'entre-deux, hein, où il ne se détermine pas, alors là, oui, effectivement, il est sûr de faire du surplace et d'en payer les conséquences. Ben, vous voyez, la meilleure chose à faire, la meilleure chose à faire, c'est de décider en connaissance de cause. Mais on ne peut pas toujours décider en connaissance de cause. On n'a pas toujours les moyens de savoir ce qu'il faut faire. C'est là que les questions se posent comme vous les posez. Oui ?
Est-ce que dans un monde qui serait vraiment purement déterminé, il y aurait de la place pour l'émergence du neuf ? Je ne crois pas.
Oui.
Dans l'histoire de l'humanité, oui, même dans l'histoire de l'univers, alors même que, bon, à l'époque, on ne savait pas que l'univers avait une histoire, mais donnons-nous-en à l'histoire de l'humanité, il y a eu des grandes émergences de neuf. Il ne me semble pas possible si le monde est purement déterminé.
Alors, je vous dirais une chose, c'est que l'idée d'un déterminisme absolu, c'est une idée relativement neuve dans l'histoire de la pensée, tout de même. C'est à partir du XVIIe siècle, à partir de la naissance de la physique, où on a cherché à expliquer les événements et à les prévoir, ben, qu'on s'est demandé si, au fond, l'univers n'était pas tout entier réglé, au fond, selon des lois nécessaires, telle qu'une intelligence absolue pourrait effectivement prévoir tout ce qui va se produire.
Et Dieu doit s'ennuyer beaucoup dans
ce travail. Sauf que c'est peut-être là une illusion de la raison. C'est-à-dire que, enfin, les sciences ne nous permettent pas, c'est le métaphysicien qui raisonne comme ça, mais pense qu'on pourrait intégralement tout prévoir si on savait tout. Mais justement, la question de la connaissance ne se pose pas dans ces termes-là. Et effectivement, en plus, rien n'exclut que l'univers puisse être en expansion, changer, se modifier, par exemple, comme le pense personne, par exemple. Hein. Vous voyez, voilà, ça c'est... De toute façon, à ce genre de questions, on ne peut pas, sur le terrain de la connaissance, répondre. On sait simplement, bah oui, vous savez que si vous lâchez votre livre, il va tomber nécessairement. C'est d'accord. Mais vous savez qu'il y a une relation nécessaire de cause à effet entre deux phénomènes. Ça, oui. Mais enfin, c'est une connaissance limitée. Vous ne pouvez pas dire que tout l'univers est ainsi réglé. Et en même temps, la question qu'on peut se poser, c'est la question du hasard. On y reviendra. Est-ce que... une conception déterministe exclut le hasard? Non. Il y a hasard quand il y a une série de causes convergentes. Par exemple, je ne sais pas, je sors dans la rue, au moment où je sors, je reçois une tuile sur la tête. Bon. Vous avez deux séries causales. La tuile qui se détache parce qu'il y a usure du toit. Ça, on peut l'expliquer. Et puis, la deuxième série causale, c'est si je suis sorti à cette heure-là, c'est parce que j'étais en retard, et j'étais en retard parce que ceci, et parce que cela, vous voyez, bon. Et c'est la rencontre la rencontre entre ces deux séries de causes. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. On peut pas prétendre. C'est le hasard. C'est ça qu'on appelle le hasard. On ne peut pas prévoir.
Une acceptation plus large du hasard. Les sciences contemporaines donnent plus de place au hasard qu'on en donnait à l'époque.
Oui. Ah bah oui. Ouais. Oui. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais en même temps, on essaie. L'idéal, c'est tout de même un idéal déterministe, malgré tout. On voudrait pouvoir tout expliquer, tout.
Hein, ça, c'est, on commence c'est... à savoir qu'on ne peut pas se réduire à un déterminisme.
Non, le déterminisme mécaniste, qui a été celui de la science au départ, oui, effectivement, il est compliqué. Ça ne veut pas dire que pour autant l'idéal déterministe est abandonné. Hein. Je veux dire que même les sciences qui font une part à l'incertitude ont pour idéal une explication qui serait intégralement claire.
Hein, enfin. Ouais. Concrètement, c'est
la théorie quantique.
Voilà, dans la théorie quantique, il y a de la certitude.
Ouais. Quand l'électron, le photon traverse un champ magnétique, on ne sait pas où il va aller.
Voilà.
On mesure A, R, B,
mais
il n'est pas forcément arrivé à B.
Tout à fait. Mais en même temps, ce qui anime le scientifique, c'est tout de même l'idéal déterministe. Même s'il admet qu'il y a de la certitude, hein, bien sûr. Voilà. Donc, alors là, c'est toute la question de savoir quel usage on fait du déterminisme. En science, le déterminisme, c'est un déterminisme conditionnel, limité, qui n'est jamais absolu. Et c'est pour ça que la question de savoir si le déterminisme exclut la liberté, non. Si on s'en tient aux limites que posent les sciences, le déterminisme des sciences n'exclut pas la liberté.
Oui, c'est sur un autre plan.
De toute façon, c'est sur un autre plan. Enfin, ça, ce sont des questions qu'il faudra se poser après. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de répondre. Oui, allez-y, oui.
Pour revenir à Rousseau, donc, il dit que la machinerie humaine et la machinerie animale sont identiques.
Non, mais disons, oui, je comprends.
Ouais. Mais que l'homme agit par un acte de liberté.
Oui.
Mais il définit pas ce que c'est que cet acte de liberté.
Ah ben, alors, bon, on peut regarder un peu mieux son texte, hein, si vous voulez. C'est la puissance. Ah oui, là, il est cartésien sur ce terrain-là. C'est la puissance de vouloir, ou plutôt de choisir. Attendez, l'homme éprouve. Attendez, c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. En fait, on retrouve du Descartes, là. C'est-à-dire que la liberté de la volonté, c'est une expérience intérieure que l'on a de choisir. On ne peut pas en dire autre chose. Hein, c'est une puissance métaphysique au sens où elle est au-delà, au-dessus de ce qui est de l'ordre d'un mécanisme. Hein. C'est pas une puissance naturelle. Hein. Mais, comment dire, là, on revient à une distinction entre l'âme et le corps, hein, si vous voulez. Hein, il y a une puissance spirituelle distincte du corps. Le corps n'est que mécanisme. Tout ce qui est corporel s'explique mécaniquement, bon, même s'il y a des mécanismes subtils, évidemment. Mais l'âme, bon, bah, on est dans l'affirmation d'une réalité autre. Qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, parce que expliquer la liberté, ce serait contradictoire. Hein ? Oui ?
Par contre, il donne un exemple, il donne un seul exemple, c'est dans la ligne 18. Il dit les hommes dissolus, c'est libre des excès.
Oui.
Qui leur causent la fièvre.
Oui.
Et la mort.
Oui.
Moi, ça me fait penser directement, ça m'évoque des addictions à la limite.
Oui. Bien sûr.
Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec un réel beaucoup plus contemporain, on pourrait dire que la plupart des gens qui sont des addictions, des suicides, c'est pas forcément un choix. C'est pas forcément.
Ah. Bon, là, on va rentrer dans. Oui, non.
Mais... Le seul exemple qu'il donne.
J'entends.
Avec un regard
non, mais...
actuel.
C'est... Non, non, mais je crois qu'il faut pas lire le philosophe en le liant uniquement à son époque. Je pense que ce qu'il dit a une valeur, ça vaut. Quelle que soit l'époque, et y compris pour nous. Comment dire ? Ah, il faudrait avoir le temps de bien en discuter. Ce qu'il veut, l'idée principale, c'est qu'il veut montrer que nos maladies sont en large partie le résultat de notre manière de vivre. Et par exemple, justement, de se livrer à des excès, de boire beaucoup d'alcool, de boire... Et au fond, d'ailleurs, c'est ce que dit Rousseau dans le discours sur l'origine, on pourrait faire une histoire des maladies à partir de ce principe. Montrer que les maladies, finalement, traduisent un dérèglement du rapport de l'homme à la nature.
En ce sens-là,
il parle bien, l'esprit déprave les sens. Donc là, il y a un dérèglement, et il y a un discours qu'on pourrait dire aussi d'une certaine manière un peu écologique, si on peut dire. Il y a un équilibre qu'on a rompu. Et l'équilibre, c'est la condition de la santé et du bonheur, hein, si vous voulez. Et quand il y a un déséquilibre et que l'homme, effectivement, maltraite son animalité, hein, eh bien, effectivement, il se livre à des excès et les conséquences en sont extrêmement funestes. Alors, pour vous répondre un peu mieux, je vous dirais bien sûr qu'on se drogue. Et quand on se drogue, ça finit par être... on n'a plus le choix. Hein, on est agi par la drogue. Mais au départ... Au départ, alors on va dire, oui, c'est l'enfance, c'est un manque. Non, mais d'accord, on va toujours aller, on est d'accord. Mais voilà. Mais il y a tout. Alors évidemment, il y a toujours, à la base, quand on parle de libre arbitre, de liberté, on parle toujours de l'idée qu'il y a tout de même un pouvoir de commencer en l'homme. Un pouvoir de commencer des actions en l'homme. Hein, et de ne pas simplement suivre. Ce que la nature commande ou même ce que l'histoire sociale en nous fait de nous. Hein, c'est ça, au fond. Si nous sommes uniquement déterminés, on dira que ce que nous faisons n'est que le résultat de notre passé, de notre histoire, de notre éducation, etc. On ne peut pas faire autrement.
Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut conscientiser des choses ? Typiquement, le matin, on se réveille, la voiture est en panne, par exemple.
Oui.
On a plusieurs choix qui nous viennent à la tête. Soit je vais me coucher, je ne vais pas au travail. Soit je prends le vélo,
oui.
Mais il pleut.
Oui.
On a plusieurs choix qui nous viennent à la tête.
Oui, alors.
Et nous, on va choisir parmi ces choix.
Oui.
Alors, et donc, nous n'avons pas décidé qu'est-ce qui nous mène à la tête.
Non. Alors, pour vous répondre comme Diderot, je dirais que ces choix ne sont pas vraiment des choix. C'est-à-dire, en fait, nous sommes déterminés à désirer telle ou telle chose. Donc, d'une certaine manière, bien sûr qu'on peut penser qu'il y a du choix au sens où, effectivement, il y a une initiative de l'individu. C'est vrai. Mais, c'est une initiative qui est tout de même motivée par des causes.
Quand même, si on développe cet exemple-là, chaque choix, enfin un choix donc est déterminé par des causes. Donc j'ai entendu il pleut, vélo, etc. Mais à un moment, notre liberté s'exprime dans la pondération qu'on fait sur tous ces paramètres.
Oui.
Et cette liberté, elle est difficilement tangible d'une certaine manière parce que le poids que l'on attribue à chacun de ces paramètres est extrêmement difficile à faire, fluctuant selon les moments,
selon les
personnes.
Et en plus, on a un choix limité par notre raison.
Oui, on peut trouver d'autres raisons, en rajouter et les pondérer, et les choix deviennent très difficiles, et très personnels aussi.
Alors bon, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Il est l'heure, je vois qu'il est l'heure, et qu'il faut qu'on arrête. Ça a été ? été pris ?
Oui, oui. C'est marrant, il y a des fois.
Ça va pas correct.
Il va pas s'arrêter ce couillon.
Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, oui. Voilà. Allez. Bon. Il passe. Non, pas vraiment. Passe-moi les clés parce qu'il faut que j'ouvre.
Attends, il y a un problème ? Excuse-moi.
Je vais pas t'ici.
Écoute, je sais pas. Deux minutes. Non, non, ça continue. Encore et encore.
Non, bon, est-ce que ça a pris ? Est-ce que tu as pris le...
Oui, oui.
Oui, d'accord.
Passe-moi les clés.
Ah oui, pardon. Bonjour.
Bonjour. Vous voulez donner à madame.
Voilà.
C'est pas grave.
Tiens.
Merci.
Excusez-moi.
Vous n'avez pas de...
C'est bon ?